De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, il fallait bien que ça arrive, un moment où durant cette crise sanitaire du Covid-19, on parle de quelqu'un qui en a été victime. Alors si peut-être certains d'entre vous ont perdu des proches, hein, ou des connaissances, le cinéma a perdu un de ses acteurs, un de ceux qu'on n'oublie pas quand on le croise. Véritable gueule du cinéma, Philippe Naon est décédé le 19 avril dernier à l'âge de 81 ans. Devant les caméras, pour deux films de Gaspard Noé dans les années 90, le moyen-métrage Carne et le premier long-métrage Seul contre tous, on appellera ensuite souvent Philippe Naon pour jouer des rôles de sale gueule ou d'ordure, mais parfois des rôles plus doux. Alors j'ai rencontré Philippe Naon il y a 10 ans, hein, sans jamais diffuser cette interview, il aura fallu sa disparition pour que je le fasse. Avec lui, on discutera des tournages de Carne et Seul contre tous, du cinéma français et des rôles qu'il ne voulait pas. Au passage, Philippe Naon désignera un ou deux de ses collègues.
On m'a proposé de travailler dans un film, le premier rôle c'était Dubosc, j'ai dit remballe ton scénario, j'en veux pas. J'ai pas envie de travailler avec des cons.
La suite, vous la découvrirez dans le courant de cette émission qui contient également eh bien, des chroniques hein, faites depuis leur domicile par Marine et Manu. Si Manu va nous parler de 3 DVD sortis chez l'éditeur Artus, Marine, elle, va débuter l'émission en nous parlant de l'actu VOD hein, avec tous ces films sortis précipitamment en streaming. De chez elle, confinée selon les critères en vigueur, elle nous parle de Wall Street Project et de Brooklyn Affairs. Elle commence par Wall Street Project qui est non seulement eh bien, un divertissement mais aussi un bon moyen de comprendre les rouages de la bourse.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Notre but est d'obtenir les cotations boursières en 16 millisecondes, ce qui est une milliseconde plus rapide que n'importe qui d'autre.
Ok, mais après, qu'est-ce qui se passe?
Deux cousins travaillant pour une grosse firme new-yorkaise experte dans le trading décident de tenter le coup du siècle. Construire un câble entre la bourse du Kansas et celle de New York qui leur permettrait d'avoir le cours de la bourse 15 millisecondes avant Wall Street et ainsi de pouvoir vendre en premier au meilleur prix des actions aux potentiels acheteurs. Mais le duo composé d'un jeune requin de la finance, interprété par Jesse Eisenberg, et d'un geek à la limite du trouble autistique, interprété lui par Alexander Skarsgård, vont voir leur projet mis à mal par leur ancienne boss Eva Torres, qui ne compte pas se laisser distancer.
Pourquoi ne demandes-tu pas à Eva Torres ?
Eva Torres se sert des gens comme des actifs à liquider.
Je peux faire de ta vie un enfer. On fera l'aller-retour en 15 millisecondes.
Je vous ai déjà dit qu'on ne pouvait pas.
Et moi, je te dis que ça se peut.
Tu crois qu'elle construit sa propre ligne?
Nom de chien!
The Wall Street Project s'appelait en version originale le projet Colibri. Un titre qui avait bien plus de sens. Le Colibri est le fil rouge du film Les héros court après l'hypothétique milliseconde qui leur manque pour doubler Wall Street, une milliseconde qui équivaut, comme ils le disent, au battement d'ailes d'un colibri. Au final, The Wall Street Project ne s'avère absolument pas être un thriller de la finance, hein, comme on pourrait le croire. C'est davantage un buddy movie entre deux personnages que tout oppose, mais qui sont reliés par le même projet complètement fou. Et le film a le mérite d'être non seulement un bon divertissement, mais également de savoir clairement expliquer les ficelles du trading de Wall Street aux novices que nous sommes. Le film ne s'arrête pas là, au travers de ces deux personnages masculins, il parviendrait presque à rendre la finance et la spéculation humaine. Dommage que le personnage de méchant, incarné par Salma Hayek, soit à ce point caricatural qu'on le croirait sorti d'un Marvel. The Wall Street Project est actuellement disponible en VOD.
Faut voir ça comme David marchant sur le parquet de la bourse, avec le plus gros slingshot qui existe, terrassant Goliath qui s'écroule à genoux. Et on est David. Ouais, on est David.
Après Wall Street, voici un film avec un casting 4 étoiles, Alec Baldwin, Willem Dafoe, Bruce Willis et Edward Norton, qui est aussi le réalisateur de Brooklyn Affairs, film injustement boudé, selon Marine.
Alors voilà, il y a un truc qui débloque chez moi, c'est la première chose à savoir.
J'ai des fils dans ma tête, mon gars.
J'ai des tics et je crie beaucoup.
Si.
Ça me fait passer pour un fol dingo.
Tu peux pas essayer de te retenir.
Touche.
Je bêlais.
Je suis désolé, mais dans ma tête, c'est encore plus le merdier. J'arrête pas de triturer les choses, surtout les mots et les sons. Je joue avec jusqu'à ce qu'ils sonnent juste.
Nous sommes dans les années 50. Lionel Hesrog, interprété par Edward Norton, qui a écrit et également réalisé le film, Lionel Hesrog travaille dans une agence de détectives privés créée par son mentor, Frank Mina. Un jour, une filature se passe mal et Frank Mina est assassiné. Lionel décide alors d'enquêter sur cette mort. Il a pour lui un atout, sa prodigieuse capacité à tout mémoriser, mais il a également un handicap. Il est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, ce qui le pousse à intervalles réguliers à crier des insanités sans pouvoir s'en empêcher. Obsédé par sa quête de vérité, Lionel Hesrog va arpenter les bas-fonds de New York et découvrir que ce meurtre pourrait bien avoir des liens étroits avec les hautes sphères de la ville.
Cette ville est aux mains de Buzz Randolph. Et si j'ai envie de construire des routes pendant que le nombre de pauvres augmente, je démolirai autant de quartiers de merde que je voudrais.
Menacez son œuvre, et il vous détruira.
Zip !
Calme tes nerfs, Fonavo.
Ces gens sont invisibles, aucun d'eux n'existe.
T'es en danger, ils vont pas en rester là. Vous êtes au-dessus de la loi.
Seulement en avance sur elle.
Brooklyn Affairs est un film qui avait tout pour lui, un casting hors pair, Bruce Willis, William Dafoe, Alec Baldwin, un scénario extrêmement solide qui mélange intrigue policière et drame social, puisque la condition des personnes noires est une thématique qui reste en filigrane de l'intrigue. Et pourtant, eh bien, ce film est injustement passé inaperçu, une injustice que je vous invite vivement à réparer dès maintenant, puisque le film est en VOD. Brooklyn Affairs est un très bel hommage au film noir des années 50, et son principal point fort, eh bien, c'est la performance d'Edward Norton, qui incarne donc ce détective atteint du syndrome de la Tourette. Il est extrêmement convaincant, réussissant à dépasser le handicap de ce personnage qui pourrait pourtant rapidement devenir ridicule. Il le joue non seulement avec énormément de réalisme, mais également avec une vraie tendresse, réussissant ainsi à le rendre attachant et profond. La figure du détective privé, sombre, impassible, violent, est ici distordue pour en tirer un personnage trouble et très humain, ce qui apporte une dimension toute particulière au film. Après son premier film en tant que réalisateur, l'anecdotique comédie romantique Au nom d'Anna, on a grand plaisir à retrouver Edward Norton derrière la caméra avec cet ambitieux projet, mais également devant la caméra, chose qu'on n'avait pas vue depuis Birdman de Iñárritu en 2014.
This is Cinerama.
On retrouvera l'actualité des sorties VOD après cet hommage à un acteur que le Covid-19 a précipité dans la tombe. Cet acteur, c'est Philippe Nahon.
Qui êtes-vous ?
Cinerama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Révélé dans Carnes et Seul contre tous, premier long métrage de l'intraitable Gaspard Noé, où il interprète un boucher raciste au bout du rouleau, Philippe Nahon est décédé ce 19 avril à l'âge de 81 ans. Vraie gueule du cinéma, sa voix est aussi reconnaissable entre toutes, hein, car elle est une composante des premiers films qui l'ont fait connaître au grand public. J'avais rencontré Philippe Nahon il y a une dizaine d'années, alors que j'avais apprécié ce moment, je n'avais jamais monté l'interview. Nous avions parlé des débuts de Gaspard Noé, des conditions de tournage de Carnes et Seul contre tous, et du monde du cinéma. Et vous l'entendrez, Philippe Nahon avait sa manière de mener sa carrière en soutenant les réalisateurs de courts-métrages. Car selon lui, plutôt tourner dans un court-métrage en n'étant pas payé qu'être bien payé et tourner avec des cons. Pas mal, non ?
Ma présentation de moi, c'est quoi ? C'est Philippe Nahon. Voilà, Philippe Nahon, comme le comédien.
Donc vous êtes l'acteur emblématique des deux premiers films de Gaspard Noé, enfin d'un moyen-métrage et puis d'un long-métrage, donc Carnes et Seul contre tous. Alors, comment il a fait appel à vous, en fait, Gaspard Noé ?
Ah ben c'est très simple, il a regardé dans le fichier électronique du spectacle, qui était un fichier tenu par Jacques Arbez et Claude Wolff, Claude malheureusement est décédé, et qui faisait un travail énorme, qui fichait tous les comédiens, qui avait un énorme annuaire. Et je sais que Gaspard est allé les voir, il dit voilà, j'ai un film, un court-métrage à faire, un moyen-métrage à faire, je veux un rôle de boucher, est-ce que je peux regarder vos fiches ? Il a regardé les fiches, il est tombé sur ma photo, il a dit lui il a l'air bien, comment il s'appelle, Philippe Nahon, je peux avoir ses coordonnées, il m'a appelé, il m'a dit voilà, je m'appelle Gaspard Noé, il avait une toute petite voix comme ça. Je m'appelle Gaspard Noé, je vais faire un moyen-métrage, un court-métrage. C'est pas payé ? Oui, je sais, ça je sais, les courts-métrages sont jamais payés, mais c'est pas grave, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'un boucher chevalin qui qui élève sa fille, qui a été abandonnée par sa femme et qui élève sa fille tout seul. Et bien, sa fille est autiste, et puis voilà, il lui arrive, bah, écoutez, on voit mal le scénario, et puis je vais lire le scénario, et puis après, je vous donne ma réponse.
J'aurais tellement aimé qu'elle m'appelle papa, au moins une fois dans ma vie. Mais non, tout ce que j'aurais aimé dans la vie, je ne l'ai jamais eu. Pas de mère, pas de femme. Et même ma fille, je ne l'ai pas vraiment eue. Mais elle, je l'ai aimée. C'était la chair de ma chair, le sang de mon sang. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à m'installer dans un bled pourri avec cette grosse salope. Elle, elle a eu ce qu'elle voulait. La même chose que toutes les femmes, d'ailleurs. Un bébé qui lui pompe les seins, qui grandisse et la protège jusqu'à la mort. C'est tout con à faire, et ça leur donne l'impression que leur vie a un sens. Comme si la vie pouvait avoir un autre sens que sa propre survie. Le monde, c'est chacun pour soi.
Et puis alors j'ai lu le scénario, j'ai dit, je l'ai appelé, j'ai dit ok, on a tourné la semaine suivante. On a fait ça en 10 jours, 15 jours, je ne sais plus. Et puis c'est sorti à Cannes. Il a eu le prix très spécial du jury, il a eu un premier prix. On l'a présenté à Clermont. Moi j'ai eu le prix d'interprétation pour le rôle. C'est la première fois qu'à Clermont-Ferrand il donnait un prix d'interprétation d'ailleurs.
Boucher, j'ai trouvé ta fille dans le trou avec l'ouvrier, je ne sais pas ce qu'il lui a fait.
Je vais le tuer.
Il n'avait pas le droit. Non, il n'avait pas le droit.
Je vais le tuer, celui-là.
Pas avec ma fille. Il va crever, ça c'est sûr, il va crever. Et je sais comment. L'enculé, je vais le saigner. Je vais vraiment le saigner. Le voilà, il attend. Il fait semblant de rien, comme si j'étais con. Il va se faire passer pour une victime. Oh, c'est un malin. On donne toujours raison aux victimes. Du calme, il faut réfléchir. Voilà, ça y est, ça gicle. Mais le sang ne m'impressionne pas. Non, il croit qu'il va se tirer, mais je rêve. À l'orphelinat, on m'avait déjà appris la loi du plus fort. C'est par la force que j'ai gagné le territoire. Mais des fois, ça ne suffisait pas de montrer mon poing, il fallait sortir le canif. Devant le couteau, on incline la tête, c'est ça. C'est bien ça qu'ils m'ont dit. Mais des fois, j'ai été trop loin. Je hais la violence. Personne ne l'aime. Mais il faut en passer par là.
Arrête! C'est pas lui!
Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, voilà, écoute, on fait la suite. J'ai dit, oui, on fait la suite. Mais on n'a pas l'argent. Ah ben, tant pis. Canal veut nous donner que de l'argent pour un court-métrage, il ne veut pas nous donner de l'argent pour un long. Donc on s'est retrouvé la même bande, c'est-à-dire lui avec la caméra, ensuite il y avait l'ingé son Olivier Levacon qui a toujours été avec nous, il était tout seul, il faisait la perche et il faisait le son, il faisait tout. Il y avait un mec, il y avait un Spiro qui était électro, il a eu un peu de matériel avec un... comme ça, par à droite et à gauche, décor naturel partout. Moi, j'avais qu'un seul costume, comme ça, on était sûr de ne pas se gourer. Et puis, puis l'histoire aussi voulait que je ne pouvais pas avoir d'autres costumes.
Parce que vous êtes à la dèche.
Et puis ça a démarré en 94 et en 95. On a tourné ça sur 2 ans. 2 ans de joie à chaque fois qu'on était dans la caméra. Et ensuite, la voix off, on l'a fait en 3 jours. Et moi, je ne savais pas du tout où il allait. Quoi. J'avais pas de scénario. J'arrivais le matin, quand on tournait, et il me disait, voilà, là, c'est la... Là, tu es en train de discuter avec un boucher, un débouché. Alors, on avait il avait trouvé un boucher qui était d'accord pour jouer dans le film. C'est un vrai boucher, d'ailleurs. Et il lui expliquait la scène, et moi je discutais avec le boucher pendant qu'il préparait un peu mettait un projecteur, une gélatine, une lampe de poche pour éclairer. Et puis après on tournait, on improvisait avec le gars, on improvisait, puis il prenait. Puis voilà, c'est tout, ça s'est passé comme ça, scène par scène pendant 2 ans. Pas d'argent, pas de tournage. Moi je tournais où j'allais au théâtre, je pouvais pas tourner la nuit. Où il aurait fallu déplacer toute l'équipe jusqu'à 5h du mat. Donc on disait, on va attendre que t'es fini, voilà. Et puis on l'a fait. Ensuite, il a mis 2 ans pour monter. Il s'est occupé du film de sa femme, Lucie Hadzi-Hailovitch, qui avait fait La bouche de Jean-Pierre. Et puis, je lui ai trouvé une machine pour faire son montage. J'ai un copain qui m'a dit, qu'est-ce que c'est que ce mec ? Là, il a l'air bien. Je lui montre Karn, il me dit, oh là là, passe, dis-lui de venir. Et il a pu se prendre la machine de mon pote, et il lui a prêté la nuit pour pouvoir monter faire son montage. Et puis ensuite, il a Karn, prix très spécial du jury, et puis ceci, Rodri, et prix d'interprétation à Namur, et puis il a été aux États-Unis, il a fait le tour du monde. Et puis maintenant, on m'en parle encore.
Ça fait bizarre de se retrouver dans cette pièce. Devant ce lit où j'ai fait ma fille. Qu'est-ce qu'elle baisait bien, sa mère. Si au moment où j'allais lui gicler dedans, j'avais su qu'elle allait me foutre un marmot sur le dos, je me serais retenu. Mais c'est comme ça, j'ai lâché la purée. Mais aujourd'hui, ma fille existe. Et même si sa mère est morte, il reste au moins ce souvenir des après-midi que j'ai passé avec elle sur ce lit. Une vraie femme, c'est beau. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre elles sont aigries d'être nées sans bite. Alors je pense que cette salope, elle m'a plaqué avec la môme pour se refaire une vie avec un Portugais. Les femmes, c'est parfois de pauvres animaux. Comme elles n'ont pas de bite, la seule manière qu'elles ont de se sentir fortes face à un homme, c'est de le trahir en s'accrochant à une autre bite. Surtout si celle-ci est plus friquée. Au moins, ce qui me fait plaisir, c'est qu'après lui avoir bien bourré le mou, son prince charmant l'a balancé comme un fromage pourri. Elle s'était comportée comme une ordure, mais au moins elle a eu l'intelligence de s'en apercevoir. Le passé te rattrape toujours. Tu finis toujours par payer tes actes. Et si elle a fini par se jeter sous un métro, c'est pas de ma faute. C'est juste qu'elle ne méritait pas mieux.
Forme particulière avec des décadrages de caméra. Il y a le son aussi qui vient comme ça. Ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas au tournage.
Il a écrit la voix off et on a enregistré la voix off en 2 jours. Alors là, ça a été quelque chose. Là. Parce qu'ensuite, après, il a coupé toutes les respirations pour que ça aille encore plus. Pour que ce soit encore plus speed, quoi. Pour moi, ça a été magnifique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans n'importe quel tournage, que ce soit court ou long, il y a des mecs qui se plantent devant moi et qui me disent seul contre tous, c'est une barbe.
Ouais. Juste de quoi m'acheter un sandwich. Et encore. Soit jambon, soit fromage, mais pas les deux, ils sont beurre. Il fait chaud ici. Et demain, comment je vais faire? Je vais quand même pas faire la manche. Pas à mon âge. Et encore moins dans mon quartier. Pas que je l'aime, mon pays. La France. Pauvre France. Toute la misère du monde s'est abattue. Plus d'usines, plus de travail. Et rien que des ruines et des chômeurs. Putain, j'ai la dalle. Pas de café à l'horizon. Pour les marcher 1 kilomètre. Bah, tu restes là, c'est pas plus mal. Ça garde le fric pour un castel demain. Je devrais me coucher. Qui dort, dîne. Et si ça se trouve, demain, j'aurai même pas faim.
Vous parlez donc du texte que vous avez enregistré en 2 jours. Alors, cette bande-son. Et cette narration est hyper importante dans le film, hein, qui arrive en plus avec la mise en scène, avec le montage très 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 brutal. Par rapport au discours, parce que c'est un discours qui est quand même plein de rage, plein de haine. Ça, est-ce que vous aviez du recul là-dessus ou pas ?
Plusieurs fois, je lui dis, attends, mais tu te rends compte ce que tu me fais dire là ? Je peux pas dire ça, c'est pas possible. Les vieux, ça pue, c'est dégueulasse. Attends, c'est le personnage qui dit ça, il n'en peut plus. Ah bon, d'accord, ok. Il va jusqu'au bout, c'est de la provoque.
Gaspard Noé, vous pensez que c'est ça, c'est aussi la provocation, c'est faire quelque chose qu'aucun cinéaste français finalement n'avait fait?
Bah oui, bien sûr. Coup sur la violence, en commençant par la fin, dans Irréversible. Il aurait très bien pu aussi commencer par le début. Bon. Alors ça aurait été encore plus horrible.
Il y a une espèce de liberté par rapport à la morale. Alors, par rapport à la morale tout court, mais par rapport à la morale des images. Enfin, chez Gaspard Noé, enfin, il se refuse rien, en gros. Hein.
Ah ben là, il se refuse rien, il attaque. Enfin, c'est vrai, il fait de la provocation. Il fait de la provocation, il va jusqu'au bout. Il voulait faire une histoire de l'œil. Il voulait faire... qu'est-ce qu'il veut faire? C'est un grand film pornographique. Mais comme on n'a jamais fait. Parce qu'il est unique. Il est unique, ce mec.
Donc vous n'êtes pas mécontent quand même d'avoir fait cette rencontre ?
Ah ben jamais, sûrement pas. Ça a été, mais c'est ma première carte, c'est ma plus grande carte de visite, Gaspard.
Parce qu'après, vous avez enchaîné.
Sans Gaspard, je ne serais pas ici ce soir. Et en plus de ça, je ne serais même pas dans le... Je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Bon, évidemment, il y a eu, ce qui est quelquefois un peu embêtant, mais ce qui ne me déplaît pas non plus d'ailleurs, parce que je n'ai pas envie de faire camping, je n'ai pas envie de faire Palais Royal, je n'ai pas envie de faire des merdes pareilles. Bon, pour moi, ce n'est pas du cinéma, c'est du théâtre de boulevard. Moi, je ne ferai pas de théâtre de boulevard. Je ne veux pas non plus faire du cinéma de boulevard. Je veux pas faire mon cul sur la commode. Je veux pas faire, regarde, voir si j'ai du goudron dans l'œil. Je veux faire quelque chose de chouette, quelque chose d'un peu hors norme. Alors évidemment, Haute Tension, Calvaire, là, tous les... À chaque fois, c'était... Tiens, il y a un tueur, on va appeler là. Bon, quelquefois aussi, je dis, ça suffit, quoi. Je veux bien, c'est pour ça que j'ai fait Les Petits Ruisseaux, qui est quand même un rôle sympathique, amusant, mais où il n'y a pas de vulgarité, attention. Parce que ce que je reproche aussi à certains grands comédiens, c'est qu'ils sont vulgaires. On a deux grands comiques en France actuellement. Alors, je vais citer les noms. Oui, on va citer les noms. Allez, on y va. C'est Dubosc et Bigard. Eh bien, merci, moi, j'y vais pas. On m'a proposé de travailler avec... travailler dans un film. Le premier rôle, c'était Dubosc. J'ai dit, remballe ton scénario, j'en veux pas. J'ai pas envie de travailler avec des cons. Ah non, mais c'est vrai, je le dis. On m'aurait proposé d'être dans le camping, j'aurais dit non. Je veux pas ça. Alors évidemment, je travaille moins, mais je m'en fous. Mais j'ai plus rien à perdre, maintenant, j'arrive au bout. Tant que je suis encore solide et qu'il y a une caméra, je ferai le boulot. Si je tombe devant la caméra, ben je tomberai devant la caméra. Hein.
Et sinon, donc, on vous a vu dans des films de Jean, effectivement, à suivre la nouvelle génération de réalisateurs, hein, Alexandre Aja, même Mathieu Kassovitz, vous avez suivi tout
Gans,
cela.
Gans, Niclou, Kassovitz, Aja, Audiard, et puis tous les jeunes. Il y a un copain qui m'a dit « t'es le pape des courts-métrages ». Je sais pas, j'en suis à 80, 90 courts-métrages. J'en fais encore un la semaine prochaine à Nice. J'en ai deux en route pour les mois suivants. Car on essaye d'avoir des dates. Des dates où on pourra tourner. Si, moi j'aime bien. Et puis quand je travaille pas, je préfère faire un court-métrage plutôt que de rien faire. Et faire un court-métrage plutôt que d'aller travailler des cons. J'aime pas travailler avec des cons.
C'était un condensé de l'entretien que m'avait accordé Philippe Naon en 2011. L'acteur est décédé ce mois d'avril 2020. On termine cette émission avec trois films que l'on retrouve chez l'éditeur Artus, qui aime trouver des pépites pour offrir de beaux DVD ou des VOD pour ceux qui préfèrent. Alors, Au service du diable, Dimanche à la campagne et un western, Le retour de Ringo. Et c'est Manu qui nous en parle de chez lui.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Au service du diable, a exploité en salle sous le nom de La Nuit des Pétrifiés et parfois La Plus Longue Nuit du Diable, provient de l'imagination de Patrice Rondard, romancier spécialisé dans l'épouvante, alias Patrice Rome, réalisateur déviant de L'Archisex et de Elsa Fräulein SS. Alors, le récit débute en 1944 à Berlin. Le baron von Ronnenberg tue à la naissance son enfant en espérant mettre un terme à une malédiction qui ronge sa famille, à savoir que chaque fille devienne un succube au service du malin. Cette introduction très réussie nous immerge dans un climat oppressant. 25 ans plus tard, 7 individus voyagent dans un van touristique près de la Forêt Noire. Perdus, ils frappent à la porte du majestueux château du baron pour demander l'asile. Ils sont accueillis par Ilse Müller, sculpturale plante vêtue comme Vampirella, qui va rapidement dévoiler sa véritable nature, celle d'un succube, présente pour punir chacun des autres, revêtant chacun un des 7 péchés capitaux. Seul le prêtre, muré dans son orgueil, résiste à la tentation de la sublime tentatrice au service du diable. Alors, pour illustrer cette histoire iconoclaste, la réalisation a été confiée à un néophyte, le belge Jean Brismé, peu coutumier du genre, parvenant à distiller curieusement un climat enveloppant et paradoxalement distancié, non dénué d'humour. Au service du diable bénéficie d'une très belle photographie mettant en valeur l'intérieur gothique du château, d'une envoûtante partition signée Alessandro Alessandroni, de maquillage convaincant et surtout d'un casting alléchant et sexy. Le film réunit une belle brochette de comédiens parmi lesquels on peut citer la très attirante Erika Blanc, parfaite en succube, l'excellent Jean Servais au jeu délicieusement détaché et surtout le génial Daniel Emilfort, comédien fascinant, vampirisant l'atmosphère par sa ténébreuse présence. Alors son visage émacié à la Nosferatu et sa voix traînante suffisent pour nous égarer dans une dimension inquiétante. Il demeure, on peut le dire, l'attraction principale de cet étonnant film d'épouvante déployant quelques morts délectables, telles la tête coupée ou l'empalement dans un sarcophage. Alors cette coproduction belgo-italienne, nous gratifie aussi de quelques incursions érotiques tournées dans le dos du prude Jean Brismet, qui était à l'origine d'ailleurs plus ou moins un mathématicien, et notamment une très belle séquence saphique entre deux délicieuses créatures, Ivana Novak et Charlie Corrigan, pour les nommer, plus-value non négligeable pour cette œuvre curieuse et rarissime qui se clôt par un épilogue pessimiste à l'ironie mordante.
It is Sunday in the country. A time for peace.
Hey.
A time for love. A time for prayer.
On this peaceful Sunday morning.
Un dimanche à la campagne. Non, vous n'êtes pas chez Bertrand Tavernier. Alors derrière ce titre bucolique, volontairement ironique, se cache un grand film de la exploitation, signifiant pecno, s'écartant des modèles phares des années 70, notamment Délivrance ou encore Massacre à la tronçonneuse, plongée cauchemardesque au pays des rednecks, ces bouseux évoluant loin de la ville citadine, poursuivant une existence placée sous le signe de l'animalité et de la dégénérescence. Le film de John Trett, cinéaste canadien n'ayant d'ailleurs pas fait grand-chose d'autre d'intéressant, tord le cou intelligemment au genre sans pour autant le renier. Alors d'emblée, il ne surfe pas sur la vague en opposant les autochtones de la campagne et les citadins débarquant par erreur. Au contraire, le scénario brosse un portrait insolite de trois lascars en fuite issus de la ville qui pourraient incarner symboliquement les mauvais penchants du personnage principal, le vieil Adam qui vit seul avec sa petite fille selon les principes de la rédemption religieuse. Alors ce dernier ne va pas attendre que les braqueurs commettent à nouveau un quelconque méfait, il décide de les punir en amont leur infligeant les pires sévices, contraste troublant en regard de la bonhomie d'Adam qui peut s'avérer un bon grand-père aux valeurs morales irréprochables. Alors Sunday in the Country baigne dans une atmosphère troublante et inquiétante, restituant à merveille l'esprit archaïque qui règne dans les campagnes reculées. La tension monte progressivement dans ce redneck movie canadien au relent de sadisme et de sexualité refoulée, porté par une mise en scène maîtrisée et surtout l'interprétation impressionnante de Ernest Borgnine, ange exterminateur soudain pris dans une spirale de violence et de folie. Un petit chef-d'œuvre pour ce film qui était sorti à une époque en VHS sous le titre de Self Defense.
You first saw him in a pistol for Ringo. Ringo, the greatest hero of the West. I've come back.
Transposition insolite d'un épisode de l'Odyssée d'Homère, le retour de Ringo, alors se démarque radicalement d'un pistolet pour Ringo, tourné l'année d'avant d'ailleurs, par son ambiance mortifère flirtant avec le fantastique. Avec beaucoup d'intelligence, Tessari prend le contre-pied de l'esprit décontracté du premier opus, qui était à la limite de la parodie, et livre un remarquable western crépusculaire qui vaut moins par son scénario que par sa mise en scène particulièrement inspirée. Alors en soi, le script est convenu, mais terriblement efficace. Ringo revient de la guerre de sécession et retrouve son village aux mains de guerrilleros. Surtout, il s'aperçoit que la femme qu'il aime doit épouser leur chef. Cachant son identité, il prépare doucement sa vengeance. Alors porté par la sublime partition d'Ennio Morricone et un soin particulier accordé au décor, au son et à la lumière, le retour de Ringo est une réussite majeure du genre, un western baroque qui atteint des sommets lors de sa première heure. Tant que l'action est suspendue au profit de l'atmosphère surnaturelle, ce film rivalise avec les meilleurs fleurons du genre. À contre-emploi, le charismatique Giuliano Gemma livre une composition mémorable, assez loin de ses rôles bondissants et joviales comme dans Les Titans, un péplum aussi réalisé d'ailleurs par Duccio Tessari. Tessari se permet des audaces visuelles assez rares chez ce solide artisan, comme ses jeux de miroirs, ses cadrages alambiqués et ses changements sophistiqués de couleurs. Lorsque la vengeance éclate, hein, moins cathartique que prévu et surtout plus convenu, le retour de Ringo revient sur des rails plus évidents, même si l'efficacité est au rendez-vous et le jeu de massacre plutôt jouissif, d'autant que le cinéaste réinjecte, lors de la première demi-heure, pas mal d'humour absent pendant une bonne partie du métrage. En dépit de ses réserves, ce western est devenu un classique incontournable du genre.
Don't miss the return of Ringo.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
C'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
Ainsi s'achève Cinérama. On se retrouve la semaine prochaine, encore avec un hommage pour un réalisateur, cette fois-ci, Stuart Gordon. Alors, on n'aura pas d'interview, mais beaucoup de choses à en dire.
This is Cinérama.